Alors, l'instrument avant que vous avez entendu, ce n'est pas une trompette, c'est un cornet. Le cornet est plus petit. Alors, vous pensez bien qu'avec la présence américaine à Cuba, les musiciens ont profité pour enregistrer énormément de morceaux de toutes sortes, de tous les rythmes, entre 1904-1906 jusqu'au départ des Américains en 1961. Enfin, c'est un peu, on dit que je suis passionné, je ne suis pas passionné, il faut chercher. Et dans ce que je trouve, je pense que, tout d'abord, dans un premier temps, la technologie américaine va permettre d'enregistrer tous ces morceaux que nous écoutons, qui durent entre 2 minutes 40 jusqu'à 3 minutes 10. Il y a un certain nombre d'années, on a appelé ça le format radio. Alors, non seulement ça dure peu de temps. Nous avons entendu un morceau tout à l'heure avec le guitariste qui tentait de faire un solo, mais son solo n'a pas duré plus de 4 mesures. Il faut tout dire en 3 minutes. Les musiciens se débrouillaient, il fallait tout dire dans ce laps de temps. Et ça a duré combien? 50 ans? Voilà, c'était comme ça. Et il y avait un micro pour prendre tout le monde. Ça s'est amélioré. Quand les orchestres cubains ont commencé à être invités dans les stations de radio de La Havane, comme la Estudiantina Sonora Matancera, c'était son vrai nom, et tous les orchestres possibles imaginables, pour venir passer à la radio pour être enregistrés. Et heureusement d'ailleurs, car ils ont été enregistrés pour l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on est bien content d'avoir ces enregistrements sous forme de CD en Espagne, à Barcelone ou Madrid, à Caracas, un peu partout. C'est très important parce que ça fait partie de la culture. D'ailleurs, c'est un élément de civilisation. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est comme ça qu'on construit une civilisation positive. Et je pense que Cuba l'a échappé belle. Le son cubain a influencé un peu tout le monde, des musiciens cubains, notamment ce fameux... Il est d'origine du Congo, je pense, Isaac Oviedo. Il est mort très vieux en 1993 ou 94. C'est lui qui est parti, il a quitté Cuba, il est venu à Porto Rico en 1931, et c'est lui qui a appris au premier musicien portoricain, au premier guitariste, à jouer la guitare tres, cette fameuse guitare de 3 cordes doubles. Et ensuite, les portoricains ont créé des quartettes et des sextettes aussi. Le son s'est niché au Mexique, vous disais-je, mais aussi au Venezuela et au Panama. Le Panama, comme société créole, parce qu'il y avait, avec la percée du canal de 1914, il y a eu 300 000 Caribéens de toutes conditions et de tous pays qui sont partis là-bas, et cette société créole a aussi découvert le son cubain. Le Venezuela, la Colombie, c'est un lieu dépositaire de musique cubaine. Et ça depuis plus de 60 ans. Au Pérou, il y a une communauté nègre et Benny Moré, le plus grand chanteur de l'histoire de Cuba, a enregistré des documents pour la radio du Pérou que nous pouvons encore écouter aujourd'hui. Donc, Cuba, à travers sa musique, a été une zone d'influence. Et c'est comme ça que les États-Unis l'ont compris et ont accepté Cuba comme tel. Et d'ailleurs, les Cubains, les Américains, s'ils n'acceptent pas Cuba comme partenaire politique institutionnel, les États-Unis sont tout prêts, et d'ailleurs ils le montrent à travers les instances culturelles là-bas, ils sont tout prêts à accorder à Cuba, à travers ses musiciens, le rôle qui leur est dévolu. À savoir que les institutions universitaires, comme le Smithsonian, organisent des sessions, organisent des réunions, des rencontres d'orchestres cubains. Et ça fait partie de ce qu'ils appellent la diversité culturelle des États-Unis et la reconnaissance de cette diversité. Et ces musiciens de cette diversité sont reçus officiellement à la Maison-Blanche. Que leur président soit démocrate ou républicain. Des nègres cubains qui n'auraient jamais pu penser être reçus chez leur président cubain, ils sont reçus à la Maison-Blanche. Et ça depuis une quarantaine d'années. Et ça, c'est grâce à la musique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Cuba reste un repère intellectuel pour les États-Unis. Là, je devais présenter une conférence pour la ville de Bemao, mais ils ont annulé ça. J'avais appelé cette conférence controverse politique et contrepoint musical au XXe siècle, où j'analysais, enfin où je devrais analyser le rôle double de New York et de La Havane au XXe siècle du point de vue culturel.